Telle fut la conclusion des gamins de la décharge. Cette sainte patronne de Huachaca, cette vierge dont on faisait tant d'histoires, n'était qu'un canular, une escroquerie, une vierge idolâtre. D'ailleurs, la proximité géographique entre la basilique et la boutique de bondieuserie se passait de commentaires. Loupé en avait écouté des lectures de livres pour adultes, bien ou mal écrits. Si elle parlait un sabir incompréhensible pour tout autre que son frère, elle avait absorbé un vocabulaire vaste et érudit, bien au-dessus de son âge et de son expérience. Hostile à la Vierge de la Solitude et à sa basilique, elle estimait en revanche que l'église dominicaine d'Alcala était une magnifique extravagance. Elle, qui déplorait la robe brodée d'or de Soledad, adorait le plafond doré à la feuille de Santo Domingo. Ce baroque espagnol, pourtant si européen, ne lui inspirait aucune réserve. Et puis, elle aimait l'autel incrusté d'or de la Vierge de Guadalupe, qui n'était pas éclipsé par celui de Sainte Marie, Mère de Dieu. Car la petite, qui se considérait comme la fille de Guadalupe, prenait ombrage de voir sa sainte éclipsée par la Vierge monstre. Elle ne voulait pas seulement dire que cette Marie-là était la figure dominante de l'écurie des Madones, elle la croyait arrogante. Et c'était son grief majeur contre le Templo de la Compañía de Jesús, au carrefour des calles Magón et Turano. Il faut dire que cet édifice avait fait de la Vierge son attraction principale. Sitôt entrée, on remarquait le bénitier empli d'eau bénite, el agua de San Ignacio de Loyola, ainsi que un portrait du redoutable saint levant les yeux vers le ciel pour qu'il lui inspire la voie à suivre, comme il est souvent représenté. Une fois dépassé le bénitier, on trouvait dans un renfoncement engageant un autel modeste mais gracieux dédié à Guadalupe. On avait accordé une attention particulière à la célèbre phrase de la Vierge à la peau sombre qui s'inscrivait en grosses lettres visibles depuis les sièges et les prie-dieu. « No estoy aquí, que soy tu madre ?» Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? Tels étaient les mots que se répétait sans fin Loupé quand elle voulait prier. Mais, direz-vous, il y avait là une allégeance contre nature de sa part, à une mère et à une vierge, substitut de sa vraie mère, prostituée et femme de ménage chez les jésuites, si peu mère pour ses enfants, souvent absente, vivant à l'écart d'eux, et qu'il avait laissé sans père, sinon le substitut que constituait le patron de la décharge, ou la multitude des pères que l'enfant s'était imaginé. Or, Loupé adorait de tout son cœur Notre-Dame de Guadalupe, tout en doutant terriblement d'elle, car elle soupçonnait fort que la brune avait reconnu la suprématie de la Vierge Marie, qu'elle s'était faite complice de sa prise de pouvoir. Juan Diego avait beau passer en revue les lectures qu'il lui avait faites, il ne voyait pas où elle était allée chercher cette idée. À sa connaissance, cette ambivalence à l'égard de la Vierge à la peau mate n'appartenait qu'à la jeune télépathe. Aucun livre arraché au bûcher ne l'avait égaré sur ce sentier tourmenté. Et malgré l'élégance du sanctuaire dédié à Guadalupe, car l'église des jésuites ne la dédaignait en aucune façon, c'était bien Sainte Marie, Mère de Dieu, qui occupait le centre de la scène. Elle se dressait, impressionnante, colossale. Son autel était vertigineux, sa statue écrasante. Un Christ en quasi-réduction, déjà crucifié, saignait à ses pieds, des pieds démesurés, solidement plantés sur leur socle. « Mais qu'est-ce qu'ils ont à rétrécir Jésus ?» s'étonnait Loupé. « Au moins celui-là, il est habillé, » répondait Juan Diego. Les pieds de la Vierge reposaient sur un piédestal à 3 degrés, singulière pièce montée où se pressaient des visages d'anges parmi les nuées. « Qu'est-ce qu'il faut comprendre ?» s'interrogeait Loupé. « Que la Vierge Marie piétine les anges, elle en serait bien capable. » De part et d'autre de la géante, deux statues sensiblement plus petites et noircies par les ans représentaient des inconnus, ou presque, ses parents. « Parce qu'elle avait des parents, celle-là? Comment on saurait quelle tête ils avaient? Et puis qu'est-ce qu'on s'en fiche ?» Sans conteste, cette statue monumentale méritait le nom de Vierge Monstre. La mère des deux gosses se plaignait d'avoir un mal de chien à l'épousseter. L'échelle était trop haute. On devait la caler solidement contre la statue elle-même. Esperanza priait sans relâche Notre-Dame, la meilleure femme de ménage des jésuites qui arrondissait ses fins de mois à Calle Saragossa, était une inconditionnelle de la Vierge. De vastes bouquets de fleurs, 7 en tout, entouraient l'autel. mais il paraissait minuscule par rapport à la figure gigantesque. Non contente de dominer la situation, elle semblait menacer son monde. Même Esperanza, qui l'adorait, la trouvait trop grande. « C'est pour ça que je dis qu'elle est arrogante !» répétait Lupe. « No estoy aquí que soy tu madre !» se surprit à répéter Juan Diego sur la banquette arrière de la limousine, qui, à travers un paysage de neige, approchait du terminal de la Cathay Pacific à JFK. Il avait prononcé à haute voix en espagnol et en anglais cette modeste affirmation de Notre-Dame de Guadalupe, plus modeste que le regard d'aigle de la géante abusive. « Ne suis-je pas là, moi, qui suis ta mère ?» se répétait-il. En entendant les marmonnements bilingues de son passager, le chauffeur vindicatif lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Lupe n'était pas auprès de son frère, hélas. Elle aurait lu dans les pensées du chauffeur. Elle lui aurait révélé ce qui traversait l'esprit de cet homme venimeux. « Toi, t'es un métec qui a fait son chemin. » pensait-il de son passager mexicano-américain. « On y est presque à votre terminal, mon gars !» dit le conducteur. La façon dont il avait articulé « monsieur » tout à l'heure n'était guère plus aimable. Mais Juan Diego pensait à Lupe. Il se souvenait de leur enfance à Oaxaca. Sans sa sœur télépathe à ses côtés, il ne risquait pas de connaître les pensées de cet individu raciste. Et son esprit avait tendance à vagabonder. À être ailleurs. Chapitre 3. Mère et fille. L'infirme n'avait pas prévu qu'il serait bloqué à l'aéroport pendant 27 heures. La Cathay Pacific l'avait dirigé vers les salons que British Airways réservait aux passagers de première classe, plus confortables que ceux de la classe économique, où les traiteurs s'étaient trouvés à court de repas, et où, au fil des heures, la propreté des toilettes laissait à désirer. Mais le vol Cathay Pacific à destination de Hong Kong, affiché pour 9h15 le 27 décembre, n'avait pas décollé avant le lendemain midi. Or, Juan Diego avait enregistré le sac où étaient rangés ses bêta-bloquants. Le vol durant 16 heures, il lui faudrait donc s'en passer pendant près de 2 jours. Mais quand on a grandi sur une décharge, il en faut plus pour s'affoler. Il avait bien pensé à appeler Rosemary pour lui demander s'il y avait un risque, mais il n'en avait rien fait. Il s'était souvenu de ce qu'elle lui avait dit. À supposer qu'il doive interrompre son traitement pour une raison quelconque, il devrait le faire progressivement. Et contre toute logique, il en avait déduit qu'il ne risquait rien à arrêter puis à reprendre ensuite. Il savait qu'il ne dormirait pas beaucoup pendant les 27 heures qu'il passerait au salon de British Airways. Il avait hâte de récupérer pendant le vol. S'il n'avait pas téléphoné au Dr. Stein, c'était parce qu'il avait envie d'une petite pause de bêta-bloquant. Avec un peu de chance, il ferait un de ses rêves d'autrefois. Des souvenirs d'enfance, si importants pour lui, lui reviendraient, de préférence dans l'ordre chronologique, car c'était un romancier à l'ancienne, un peu pointilleux sur la chronologie. British Airways avait fait de son mieux pour lui assurer tout le confort possible, compte tenu de son handicap. Les autres passagers en rade avaient remarqué sa claudication et le vilain soulier sur mesure qui emboîtait son pied abîmé. Il s'était montré compréhensif. Alors qu'il n'y avait pas assez de sièges pour tout le monde, on ne lui avait pas reproché d'en accaparer deux, qu'il avait rapproché pour se ménager une sorte de canapé et surélever ce pied pathétique. Oui, cette claudication le vieillissait. Il paraissait 10 ans de plus que son âge. Et ce n'était pas tout. Une résignation quasi palpable lui donnait un regard lointain, comme si la grande aventure de sa vie s'était située dans son enfance et au début de son adolescence. Il faut dire qu'il avait enterré tous ceux qu'il aimait, de quoi vieillir avant l'âge. Il avait conservé ses cheveux noirs. Il fallait le regarder de très près pour repérer des fils gris ça et là. Il ne les perdait pas et il les portait longs, ce qui lui donnait une physionomie composite d'adolescents rebelles et de vieux hippies qui refuseraient toute concession vestimentaire. Ses yeux sombres étaient presque aussi noirs que sa chevelure. Il était encore bel homme, resté mince, et pourtant il faisait vieux. Les femmes, les jeunes surtout, lui offraient volontiers une aide dont il n'avait pas vraiment besoin. Une aura tragique l'entourait. Ses gestes étaient lents,